Gilda, peut-être on reviendra sur ta critique des mecs qui faisaient de la politique et qui te dégoûtaient, comme tu le dis. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu quelques-uns de tes souvenirs de voyage ? Parce que quand même, tu voyageais en autostop, tu dormais, je ne sais pas très bien où, il se passait. C'était une façon, ce n'est pas comme on fait aujourd'hui les voyages et les vacances. Alors, tu peux nous te rappeler quelques souvenirs qui t'ont particulièrement marqué ?
Oui, bon, d'accord. Alors, d'abord, il faut dire que chaque samedi ou chaque dimanche, on partait avec une copine, on partait de Lugano, et si on rencontrait quelqu'un, on lui disait, il nous demandait « Où est-ce que vous allez ?» On répondait « On va où nous apporte le vent.
» C'était la grande liberté, quoi.
Et la grande liberté, oui. Alors, on faisait que du stop. Mm-hmm. Le stop, c'était vraiment dangereux, ça, c'était dur, mais ça nous donnait la possibilité de parler avec les gens.
Vous avez eu des ennuis parfois, quand tu dis que c'était dangereux?
Oui, j'ai été aussi violée en France une fois, dans l'année 68 aussi, oui.
Ça
c'est une autre chose.
Oui, mais enfin, alors, c'est vrai que ça devait peser sur vos épaules. Ça allégeait pas tellement la liberté, ce genre de danger que vous risquiez.
Non, c'était pas vraiment la liberté. Ouais. C'était vraiment dur, mais c'était aussi parce qu'on n'avait pas d'argent qu'on choisissait le stop, non ? La première chose, première raison. Alors bon, par exemple, le samedi ou le dimanche, on partait le matin, on allait jusqu'à Genova. On mangeait avec les pêcheurs du port, on parlait avec eux, et puis le soir, on rentrait, on était là, comme si rien n'était, à la famille à manger, on avait vécu un tas de choses.
Donc ta famille ignorait complètement que tu faisais ce genre de voyage-là ?
Bon, ma famille, c'était seulement le père, et c'était un vieux père. Et s'il demandait quelque chose, c'était des mensonges, comme on dit, non ? On disait jamais la vérité. Mais il nous laissait très libres, alors il n'y avait presque jamais
à mentir,
à lui dire quelque chose, non ? Et ma copine habitait chez nous parce qu'elle avait eu des histoires en Italie avec ses parents, alors elle était sans parents. Et c'était la seule entre mes copines qui pouvait faire des choses avec moi, qui pouvait aller partir, rester, dormir quelque part, et comme ça, non ?
Parce qu'en fait, à cette époque-là, les filles, on était encore assez renfermées dans nos maisons. On ne nous laissait pas tellement partir en balade comme ça.
Il y avait des mamans qui contrôlaient partout, qui nous arrêtaient aux douanes. Non,
ah oui ?
Il y avait des filles avec les mamans, c'était terrible. Et bon, alors avec cette Patricia de italienne qui habitait chez moi, on a décidé, bon, depuis le dernier jour de l'école, on va partir et on va faire le tour de l'Europe. Un stop. Alors, à mon père, on avait dit qu'on allait chez des copains en Allemagne. Il a dit oui, l'allemand, tu apprendras l'allemand, ça te fait du bien, comme ça.
Ça, puis, c'était quand, ça ?
C'était 68.
Ah, l'été 68, ça, donc.
Oui, puis on a été en Allemagne chez cette femme qui était très sympa, qui nous a dit, bon, allez, c'est bien, nous soutenait. Et puis on est parti, et de là, on est parti en Hollande, Allemagne, Hollande, en Angleterre. Et à chaque ville, c'était les places. Nous, on s'arrêtait toujours, le point de rencontre, c'était les places.
Mmh. Et là, vous vous retrouviez les gens aux cheveux longs, les guitares
Oui, il y en avait un peu partout, oui. Il y en avait un peu partout, alors on se regroupait dans les places, on chantait, on jouait de la guitare, et c'était bien. C'était la joie, alors, non ? Mm-hmm. On discutait aussi beaucoup, puis le soir, on partait où on pouvait partir avec eux. On partait dormir dans des caves. Par exemple, en Hollande, on a dormi dans une péniche. Mm-hmm. C'est en Hollande que, pour la première fois, dans le grand Fantasio, c'était un lieu où on pouvait écouter de la musique et tout ça. J'ai vu pour la première fois fumer un joint, non ?
Oui, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était le grand truc de la drogue.
J'avais une peur terrible. J'ai vu ma copine prendre et j'étais vraiment nerveuse. Je lui disais tout le temps, arrête, c'est dangereux. Je pensais, je sais pas, qu'elle aurait fait des sauts dans l'air ou je sais pas quoi. Puis alors, bon, on pouvait pas dormir au Fantasio. Ils nous ont dit, on était 2 milliers de personnes dedans, ils nous ont dit, bon, sortez de là, Méloland, quand même, nous a offert, avant de sortir, nous a offert du lait à la vanille et du chocolat, je pense, parce que la Hollande faisait beaucoup pour les beatniks.
Elle était une terre d'accueil fraternelle pour les beatniks.
D'accueil fraternel, oui. Puis tout le monde est parti dormir, je ne sais pas, dans les peniches, je ne sais pas quoi. On piquait du lait devant les maisons des gens. Et puis on allait dans les marchés. Pour manger, c'était ça. On attendait que le marché s'était fini, puis on cherchait les restes. Le reste des frites.
dis donc, vous n'aviez vraiment pas grand-chose pour voyager, quoi, si vous en étiez réduit à ça.
Des choses comme ça, oui. Uh-huh. Et puis en Angleterre, c'était la même chose. Alors c'était Piccadilly Circus aussi. Et depuis là, c'était les marchés, ou bien on entrait dans les restaurants avec toutes ces freakniks, on comprenait pas ce qu'ils disaient, on parlait pas l'anglais non plus. Nous, on suivait avec notre grand sac, on suivait. Et puis ça nous arrivait un tas de choses. Par exemple, on allait manger dans un grand restaurant tous ensemble, et puis tout le monde partait sans payer, et nous, on devait sortir nous aussi, mais on n'avait quand même pas compris qu'est-ce que c'était.
Ah, vous retrouviez avec la facture juste à vous deux.
Oui, et puis en Angleterre, on est parti à Cambridge, et puis avec Cambridge, on est parti avec des gens qui, on a compris, après, on a compris que c'était les Mots.
Mm-hmm. C'est quoi les Mots?
Les Mots anglais. En moto, ils étaient tout beaux, en moto, très sympas. Et nous, on était ravis de ces gens-là, non? On a passé une semaine avec eux. C'était vraiment grande la différence entre les étudiants de Cambridge et ces gens-là.
Oui.
Alors c'était la joie. Il y avait les étudiants bourgeois qui se baignaient dans les petites rivières de Cambridge. Et puis nous, tout nus, quand on se jetait dans l'eau, dans les petites rivières, on les dégoûtait, non? Mmh. C'était vraiment bien. Avec les chiens, on a passé des semaines comme ça, non? Et puis la nuit, on allait avec eux dormir dans des appartements qui n'étaient pas loués. Comment s'appellent les
squattés déjà.
Hein? Squattés, oui. Et il y en avait toujours un qui contrôlait avec un long couteau s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Qui nous contrôlait et nous, on dormait tranquillement comme ça.
Mais ça veut dire que l'histoire du long couteau, c'est parce que, par exemple, vous aviez souvent des affrontements avec la police dans le cadre de vos pérégrinations, quand vous traîniez sur les places ou que vous squattiez les caves ou autre chose, vous deviez vous affronter souvent avec la police, par exemple?
Oui, toujours, ça toujours. Alors, par exemple, à Florence, c'était le centre le plus dangereux. Si on se mettait devant la place, centrale, devant l'église, alors arrivait la police, on devait partir au Ponte Vecchio. Mm-hmm. Quand on était à Ponte Vecchio, arrivait encore la police, on devait déménager encore. tout le temps, mm-hmm. non mm-hmm.
On se méfiait beaucoup des jeunes à ce moment-là.
Hein. Ça, oui, il y en avait beaucoup, vraiment, non mm-hmm. Et puis tout le monde parlait, je me rappelle, en Italie, ils nous disaient qu'on était le sottoprodotto, le subproduit de la société italienne. Les gens nous menaçaient, ils disaient que c'était dégoûtant, s'ils avaient des enfants comme nous, ils les auraient tués. Et il y avait beaucoup de discussions sur les places, toujours. En Italie surtout, non? Parce que les Italiens étaient vraiment dégoûtés de cette mode.
En tant que femme, que jeune fille, comment tu vivais dans ces groupes-là? Il y avait des rapports assez égalitaires déjà entre garçons et filles? Comment ça se passait? Ou bien, bon, mis à part la violence dont tu as parlé tout à l'heure, que vous encouriez en faisant du stop, mais à l'intérieur même des groupes, ça se passait comment, les rapports entre garçons et filles à ce moment-là?
Les rapports entre garçons et filles étaient assez libres dans ces groupes-là. Naturellement, c'est plus tu allais au nord, plus c'était libre, comme toujours, non? Je pense que ça évolue un peu plus vite.
Mais pour toi, c'était facile à vivre,
ça? Il y avait toujours cette difficulté avec les hommes, même surtout faisant du stop. Mm-hmm. Mais entre les gens comme nous, il n'y avait pas de problème.
Et puis, ce n'était pas difficile de suivre le mouvement. Toi, je ne sais pas quelle éducation tu avais eue avant. C'était une chose facile à vivre.
Oui, c'était une sorte de libération de tout. Et alors, bon, c'était un mouvement libératoire. On était bien, en tout cas. On se sentait bien.
Et comme tu disais, alors pour revenir à ce que tu disais tout au début, pendant que vous faisiez la route et que vous papotiez sur les places, fumiez des joints, etc., dormiant à longueur de journée dans vos sacs de couchage, il y en a d'autres qui étaient dans la rue en train de manifester. Et toi, ça te préoccupait quand même?
Oui, ça m'a préoccupé toujours parce que je comprenais que j'avais le pied dans deux, comment on dit?
Comme on dit, on était assis en deux chaises.
Assis en deux chaises, voilà. J'avais toujours mon côté politique qui... j'étais quand même... à chaque fois, j'étais jamais complètement sincère. Parce que, première chose, moi et Patricia, on n'était pas des vrais beatniks. Mm-hmm. Parce que nous, on étudiait régulièrement et on faisait que ça dans les vacances. Mm-hmm. Les autres, c'était vraiment des jeunes qui vivaient des sous qui nous donnaient les gens quand on chantait sur les places. Nous, ce n'était pas la même chose. Nous, on avait toujours une mauvaise conscience pour ça parce qu'on n'était pas des vrais beatniks, non? Mm-hmm. On se comportait comme eux, mais on n'était pas des vrais. Et on avait toujours peur que ça se découvrait, ça. Et les manifestations dans les rues, il faut dire qu'on ne voyait très peu 68. Ça a commencé un peu plus tard. C'est un peu plus tard, ou bien le problème, c'était en France. Quand on est parti en France, alors là, oui, il y avait un autre climat. Bon, il n'y avait pas beaucoup de beatniks, c'était plutôt les clochards sous les ponts. Et là, on a vu que notre choix, c'était la politique, c'était pas ça, non? Mm-hmm. En France. Mm-hmm. Et c'était pas la même chose comme en Angleterre ou comme... les places de la Hollande.
Et finalement, alors, tu as résolu ton dilemme d'une façon ou d'une autre. Est-ce que finalement, tu as choisi plutôt de rejoindre définitivement les beatniks ou bien tu as continué la voie de tes études qui t'ont mené vers un autre horizon? Comment ça s'est fini, cette période-là?
J'entends très peu, très mal.
Comment tu as résolu finalement ton dilemme entre, d'une part, la vie de la route et la grande liberté, et puis d'autre part, tes études, et puis peut-être une vision un peu plus politique de la société?
Première chose, on est rentré de ce long voyage et on a décidé, bon, après avoir discuté beaucoup, beaucoup, il faut changer quelque chose, il faut faire quelque chose. Et ça ne suffit pas, nous, on comprenait qu'on n'était pas des pacifistes, genre... recherche de soi-même, au Gandhi, ou ces gens-là, qu'il y en avait beaucoup entre les beatniks. Et alors, nous, on a choisi vraiment que c'était la voie politique qu'il fallait faire. Mm-hmm. Mais pour faire ça, c'était difficile, c'était plutôt difficile à Lugano. Parce que, comme j'avais dit d'abord, les gens qui faisaient politique, c'était pas les gens avec qui nous, on avait des rapports. C'était vraiment très difficile à avoir des rapports avec eux. Mmh. Et le problème s'est résolu plus tard quand on est parti à Zurich. Moi, je suis partie à Zurich, travailler là. Et là, j'ai rencontré un groupe qui était vraiment très sympa. Et même les rapports entre nous, c'était plus simple, plus beau qu'avec les politiques de Lugano. Et alors, bon, tout s'est résolu comme ça.
Eh bien, je te remercie infiniment d'avoir évoqué pour nous ce moment de ton existence.
Oui.
Et à très bientôt. Merci beaucoup. Salut, Gilda.
De rien. Ciao.
Qu'est-ce que c'est? Mamie veut récunta. D'où mes amis? Qu'elle anda falbain? Su stradun per andare all'idroscalo l'era lì e l'amore lo colpì e il portaviscar del tennis e il parlava de perle rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e il portaviscar del tennis. E il gavio a due ste buone, l'era il primo meno via, perché l'era un barbon. Un bel dì, qu'elle adrait à parler.
On peut faire un quart d'heure, quoi.
Des perles. L'avait à vista passa. Bianca e rossa. Che pareva il tricolore.
Non.
Ma pelu. Resta bon più de parla. El portaviscar del tennis. El parlava de perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. El portaviscar del tennis. El che aveva due de buon. Era la prima meraviglia. Perché l'era un barbon. Un bel dì, vicino che possa che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che viene giù e domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, sono mai stato alla porta. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo lo conosci, so dove è il Toscalo. La compagnia di Toscalo, però vedi su camicia una macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina, è sua? Sì, è mia. Dove sta il barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersalasso.
Mi invita da.
Allora, la strada per il Toscalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù c'è la macchina. Bella questa macchina. Non sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Un piacer che me la sa giochi, che anche a me mi guovi il mio grande amore. Roba minima, sente roba de barbo, è il portaviscar del tennis.
Bonjour Marie, tu nous entends?
Non, pas très bien.
Tu n'entends pas très bien. Si non, je parle plus fort, tu entends?
Non, mal encore.
Très mal. Attends un instant, alors je change de micro. Allô, tu nous entends maintenant? Tu m'entends maintenant?
Oui, mais très, très faiblement.
Très faible. Bon, je vais parler plus fort.
Voilà.
Écoute Marie, toi, on t'a demandé de participer un petit moment à notre émission parce que on se souvient de toi en 68, t'étais très présente, t'étais une des figures de femme assez forte, assez présente dans les discussions. Alors c'est pour ça qu'on a eu envie de t'avoir un petit moment au bout du fil et te demander comment tu es arrivée à participer à ces assemblées, parce que tu étais à l'université à cette époque-là. Comment tu es arrivée à participer à ces événements 68 à Genève, à l'université?
Oui, bien, je crois que c'était en fond l'aboutissement de toute une époque préalable, c'est-à-dire le syndicalisme étudiant, où j'ai en fait à l'école d'architecture où je faisais mes études, j'ai beaucoup participé au mouvement étudiant d'alors. On avait déjà pas mal fait de travail, notamment de contestation de l'organisation des études et du plan d'enseignement et des tas de choses comme ça. Et puis progressivement, la tension est montée et puis. Donc moi, ce que je me rappelle de l'époque, c'est que il y avait surtout un problème de bourse d'études, ce qu'on appelait la démocratisation des études, qui, enfin, c'est mes souvenirs, c'est ça qui a fait déborder le vase.
Qui a fait partir.
Mais ce qu'il faut, disons moi, ce que je trouverais intéressant de rappeler, c'est que effectivement, il y a eu toute une agitation préalable durant plusieurs années. Qui se passait dans les structures officielles de l'Association Générale des Étudiants, où il y avait des différents groupes, des différentes tendances politiques, etc.
Mais est-ce que les événements de mai 68, c'est-à-dire le printemps, et surtout le printemps 68 à Genève, n'étaient pas aussi un peu d'une autre nature que ce syndicalisme étudiant qu'il y avait ? Ce n'est pas quelque chose de différent qui s'est passé ?
Oui, oui, tout à fait. Ah. Donc, ce qui est très important, ce dont je me souviens, moi, c'est d'une assemblée, je ne sais plus très bien à quelle époque elle a eu lieu, mais on discutait, disons, de l'orientation, de tas de choses à l'université, dans le mouvement étudiant, et mes souvenirs sont les suivants. J'ai tout à coup eu le sentiment qu'il y avait une espèce de raz-de-marée qui n'avait plus tellement à faire à tout ce qu'on avait fait discuter avant, et qu'il y avait une sorte de... Ouais, comme une espèce de grosse vague qui déboulait, qui, bien entendu, contestait tout le système hiérarchique, la structure de l'université, puis d'autres problèmes hors université, notamment le militarisme, etc. Mais qu'au fond, même les structures étudiantes étaient complètement foutues en l'air, quoi. Et moi, je me souviens très bien que j'étais dans le clan des étudiants assez traditionnalistes où je défendais les structures, etc. Puis je me suis retrouvée complètement... Oui, c'est comme si j'avais pris une grande douche, quoi. Puis après, j'ai suivi le mouvement au début, puis après, les choses se sont précipitées. Il y a eu alors l'intrusion de tas d'autres idées, de perspectives, une espèce de vent de liberté où on discutait de tout. Moi, je me souviens très bien qu'on discutait beaucoup du mariage. Je m'étais jurée de ne jamais me marier. Puis je me suis mariée, bien que je pense que je me suis mariée dans un certain état d'esprit que j'ai pas du tout renié ce que je pense sur la vie de couple, etc.
Mais ces discussions, justement, sur le mariage,
j'entends très mal.
Ces discussions sur le mariage et sur une problématique autre que les problèmes d'étudiants, proprement dit. Ces discussions, est-ce que tu te souviens si elles se faisaient dans les assemblées, elles se faisaient d'une façon visible ou bien ça se faisait dans les coulisses ?
Non, non, c'était dans les à côté du mouvement, entre guillemets... à côté des mouvements forts où il y avait les assemblées, il y avait les sit-ins, il y avait toutes ces choses-là. Moi, j'ai finalement assez peu de souvenirs parce que ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des leaders qui s'exprimaient. Moi, j'étais pas du tout, j'étais vraiment une étudiante comme une autre. Bon, je participais activement au mouvement, mais j'étais pas du tout leader, donc je crois que j'ai peut-être pas du tout participé à l'orientation du mouvement, tout au contraire. Mais moi, je me souviens très bien de tous les à côté, des discussions sur la vie quotidienne, sur la sexualité. Je me souviens très bien qu'on y avait une fête, je crois que c'était à l'occasion du Dies Academicus dans les parcs des Bastions, où c'était vraiment, tout à coup, on lâchait les brides.
Mais ça se discutait.
D'un couple de copains qui faisaient l'amour dans les buissons, puis on discutait de ça, quoi. C'était...
Mais c'était facile de discuter.
Comment ?
C'était facile d'en discuter ?
Je crois, oui. Ouais, ouais.
Et ça se discutait entre hommes et femmes ?
Surtout entre femmes, mais aussi entre hommes et femmes. Mais peut-être que je discutais dans des petits cercles qui abordaient ces questions, mais en petits groupes. Où il n'y avait pas forcément les leaders qui imprimaient leur point de vue et leur optique, souvent à coup de grandes théories.
Parce que mon souvenir à moi, c'est que c'était des discussions qui se faisaient, mais qu'on pensait quand même que ces problèmes sexualité, vie privée, vie quotidienne, on les considérait comme des faits individuels, comme quelque chose qu'on devait résoudre individuellement.
C'est juste.
En tant que femme ou en tant qu'homme, puis qu'on n'avait qu'à se débrouiller, qu'à se libérer soi-même, non ?
Non, c'est tout à fait juste. Hein. C'était l'émergence de tout à coup de ces problèmes, d'une prise de conscience où on discutait, mais il n'y avait pas de débat généraux là-dessus, dans des assemblées, dans des réunions importantes, ça c'est sûr. Mais... Oui, je te disais simplement que mes souvenirs les plus forts tournent là autour, finalement. Bien entendu, un des souvenirs forts aussi, c'est le sentiment fou d'une puissance du mouvement qui est capable de de renverser la machine, de mettre en question, de désarçonner les professeurs. Moi, je me souviens d'une espèce de plaisir révolte, à voir qu'on avait des interlocuteurs qui étaient obligés de nous écouter. Ça, c'était le côté, l'autre côté du mouvement.
Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu mettais en cause? Tu voulais mettre à la place de ce que tu avais trouvé, soit au niveau de l'université ou bien au niveau de tes rapports plus individuels, quotidiens.
À l'université, ce qui me plaisait beaucoup dans le mouvement, c'est que les étudiants avaient vraiment le droit de parole et ont proposé des modifications très importantes. Moi, je prends le cas de l'école d'architecture où il y a eu effectivement... On a presque fait table rase de l'enseignement précédent. La liberté de parole, dans le sens qu'on pouvait vraiment arriver à donner son point de vue, à donner ses idées, à les défendre beaucoup plus valablement. Ça c'est un des éléments les plus forts, je trouve.
Et par rapport à toi, tu étais dans une organisation politique ou tu étais une...
Oui, donc j'étais à la fois dans le mouvement
étudiant, ou tu étais aussi rattaché à un parti?
Mouvement étudiant et puis dans le groupe des étudiants communistes, où effectivement, ce groupe avait une part très très agissante dans le mouvement. Et bon, là, j'ai quelques souvenirs alors de discussions extrêmement difficiles au sein du Parti du Travail, pour expliquer le mouvement étudiant, la révolte. On était en partie compris, entendus, et on pouvait avoir un débat politique sur ce qui se passait, mais avec certaines franges du Parti du Travail, puis une autre était très viscéralement encore anti-étudiant.
Est-ce que toi aussi, tu as vécu ce déchirement entre cet rattachement à ces valeurs communistes, traditionnelles, cette vieille manière de faire la politique et puis ce qui éclatait en 68? Comment tu l'as vécu à l'intérieur du parti, toi-même?
Non, pas tellement, parce qu'en fait, le groupe d'étudiants du Parti du Travail est rué dans les brancards déjà depuis plusieurs années. Moi, j'en faisais partie depuis quelques années et on amenait... une contestation assez vive à l'époque déjà, donc ça m'a pas posé de problème, disons. C'est sûr que au sein du mouvement étudiant, même de la mouvance mai 68, après, on a été très souvent mis à l'écart, mais disons fortement critiqué du fait de notre appartenance. Effectivement, les étudiants communistes intervenaient souvent pour structurer les choses ou pour orienter très fortement le mouvement, alors que d'autres personnes et d'autres mouvances voulaient un mouvement beaucoup plus libre ou libertaire, et là il y avait des conflits. Mais moi je les ai pas tellement vécus, enfin j'en ai peu de souvenirs, parce que finalement c'était pas à ce niveau-là que j'encaissais le plus les coups, le changement très profond. Je crois que personnellement, ce qui a compté le plus, je crois que c'est la remise en question du type de vie et dans
la libération
et dans les perspectives d'un travail professionnel et dans les relations interpersonnelles, etc.
Il y a eu une mise en pratique d'une certaine libération sexuelle.
Ah oui, alors très très fortement. Bon, qui était sous-jacente depuis un certain temps, mais alors là, ça a été vraiment... C'est comme si on avait dit, on ouvrait la porte, on disait allez-y.
Et par la suite, comment tu...
Attends, j'entends très mal.
Par la suite, comment ça a évolué pour toi? Quelles ont été les répercussions pour toi de cette période? Que globalement, tu pourrais dire que ça a été une bonne période pour toi, tu as des bons souvenirs.
Ah ouais, moi j'ai
comment
des...
tu pourrais le définir?
Oui, j'ai des excellents souvenirs alors de cette période, même si c'était, même au niveau personnel, très difficile, parce que c'était aussi une remise en question de valeur qu'on avale comme ça, sans trop y penser.
De ce qu'on était par toute une éducation aussi. Hein.
Comment ?
C'était une remise en question de ce qu'on était, nous, par toute une éducation qu'on avait reçue.
Ah, c'est sûr.
Donc, on devait changer.
Ça, c'est sûr.
Complètement, ouais.
Et puis, bon, par la suite, j'ai des souvenirs alors plus politiques, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a eu tout un débat très, très virulent au sein du Parti du Travail qui est, bon, du fait aussi qu'il y avait, la Tchécoslovaquie qui est arrivée en plein là-dedans et les positions se sont durcies. Il y a eu tout un processus de scission, d'éclatement. Puis après, le groupe des étudiants du Parti du Travail s'est retrouvé, en fait, à éclater lui-même après avoir été exclu du Parti du Travail. On a formé une espèce de groupuscule et puis le mouvement de mai 68 s'est atomisé et c'est une période assez, bon, très passionnante parce qu'on faisait nos premières armes, non pas seulement dans la politique université, mais aussi dans d'autres domaines, dans l'immigration, dans la question militariste, etc. Et puis on s'est retrouvés à affronter au réel problème de